Réplique, Picasso face au visage, avec Jean Clerc et Stéphane Guégan. Il est difficile, quand on parle de Picasso, d'échapper au lieu commun. Je ne m'y essaierai pas. Il y a quelques jours, en compagnie de Stéphane Guégan, j'ai visité le musée Picasso qui vient de rouvrir ses portes. Et j'ai été, très banalement, frappé, subjugué par l'extraordinaire diversité de son œuvre. Sculpteur autant que peintre, jamais il ne se laisse enfermer dans un style ou dans une tendance. À peine a-t-il fait une révolution qu'il rompt avec elle. Il avance, il revient sur ses pas, il invente, il trouve, comme il dit, tout en maintenant un dialogue incessant avec les maîtres du passé. Ingres, bien sûr, mais aussi le Gréco, Delacroix, Cézanne, Renoir, Manet sont présents dans son œuvre. Voici donc ma question à Stéphane Guégan qui publie « Picasso, ma vie en 20 tableaux ou presque » et à Jean Éclair qui dirigea le musée Picasso. Ce génie tout à la fois récapitulatif et créateur fait-il de Picasso le plus grand peintre du XXe siècle, Jean Éclair?
Vous savez, lorsque Pontius-Sultène a ouvert le musée, le Centre Beaubourg en 1977, Il l'a ouvert avec une exposition qu'il voulait, une exposition manifeste, en posant la question quel est le plus grand peintre du XXe siècle? Est-ce que c'est Picasso ou est-ce que c'est Duchamp? Et il a répondu, c'est Duchamp. On dira, bon, provocation d'un Suédois luthérien, iconoclaste, bon, qui aime provoquer. Peut-être, mais c'était aussi très intelligent de sa part. Très réfléchi, sans entrer dans les polémiques parisiennes. Et puis, il se trouve que la semaine dernière, on a célébré le centenaire de la naissance d'Octavio Paz, qui est un homme du Sud, pourtant. Et Paz commence son ouvrage majeur, Le Point de Convergence, en posant exactement la même question que celle de Pontius-Sultène, sans doute avoir lu ce qu'en disait Pontius. Les deux plus grands peintres du XXe siècle sont Picasso et Marcel Duchamp, les deux pôles opposés, les deux, l'attention maximum. Et bizarrement, curieusement, contre toute attente, celui que Paz lui aussi choisit, en dépit du fait qu'il est de culture hispanique, c'est Marcel Duchamp. Et l'essentiel de l'œuvre, enfin une bonne partie de l'œuvre d'essayiste d'Octavio Paz sera sur Marcel Duchamp et non pas sur Picasso. Donc ça pose un problème, c'est-à-dire que d'emblée, si vous dites Picasso est le génie du XXe siècle, ça n'est pas l'avis de tout le monde, et ça n'est sûrement pas mon avis aujourd'hui, après avoir passé 18 ans à la tête de ce musée. Et d'autre part, si vous dites génie, la question que j'aimerais poser, c'est oui, mais peut-être est-ce un mauvais génie? Peut-être est-ce un méchant génie?
Mais quand même, je suis très étonné de cette comparaison que vous faites dès le départ. L'importance de Duchamp dans l'histoire de l'art est évidemment incontestable. Mais quand vous dites « c'est le plus grand peintre », et c'est peut-être même un plus grand peintre que Picasso, cela prend au dépourvu le spectateur moyen que je suis, parce que nous avons tous en tête des toiles de Picasso, de ces différentes périodes, des toiles qui nous ont marqué, des toiles qui nous émeuvent énormément, des portraits magnifiques. Duchamp, ce qu'on sait de lui, ce qu'on connaît de lui, ce qu'il a légué à la postérité, c'est Fontaine, l'urinoir, ce sont les ready-made, et une réflexion sur l'art d'une extrême intelligence. Mais il n'y a pas de toile, ou presque pas de toile, à quoi se raccrocher. Il est tout à fait étrange. Si vous voulez, que sa personnalité soit capitale, c'est une chose, mais de dire que c'est peut-être un plus grand peintre que Picasso, Si vous voulez, c'est un paradoxe qui va extrêmement loin.
Je comprends votre surprise, mais ça n'est pas dicté par le goût du paradoxe. Je ne dirais pas peintre, d'abord je dirais artiste. C'est-à-dire la position, le positionnement de quelqu'un qui fabrique des objets et fabriquant des objets qui se pose la question de savoir qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, encore proposer comme objet. Il y a une exposition à Beaubourg justement en ce moment qui s'appelle Duchamp peintre, qui est aussi une exposition dans son intitulé qui est paradoxale, puisqu'elle présente Duchamp non pas comme un fabricant de ready-made, mais comme un peintre, un véritable peintre. Et quand on la voit, enfin, du moins, c'est mon point de vue, on voit effectivement des tableaux qui sont d'une inventivité, d'une douceur chromatique, d'un savoir pictural qui fait effectivement que Duchamp a été un peintre extraordinaire, comme il y en a eu très peu dans les deux premières décennies du XXe siècle. Le problème, c'est qu'en 1920, pour des tas de raisons, on n'est pas là pour parler de Duchamp, Duchamp s'arrête de peindre et va se consacrer à autre chose. Il va y avoir le ready-made, qui en fait Duchamp n'a jamais fait le ready-made, il a fait autre chose, mais là aussi ce serait trop long d'en parler. C'est Breton qui va inventer cette histoire de ready-made. Et c'est aussi le moment où Picasso, qui se confronte exactement au même problème, à la même aporie que Duchamp, c'est-à-dire est-ce que l'on peut encore peindre aujourd'hui? Est-ce que la peinture est encore possible au début du XXe siècle? Duchamp, à peu près au même moment où Picasso, à peu près au même moment où Duchamp s'arrête, c'est-à-dire en 1920-1921, lâche le grand verre, qui est quand même un truc sur lequel il travaille pendant 12 ans, il faut le faire, c'est pas du ready-made. Lorsque Duchamp s'arrête en disant « ça n'est plus possible », Picasso lui-même se pose un problème tel dans sa production de peintre, qu'il dit qu'il revient au néoclassicisme. C'est-à-dire qu'au moment où, après avoir parcouru tous les styles possibles et fracassé toutes les esthétiques imaginables, en 1921, à la même époque que Duchamp avec son grand-mère, Picasso s'arrête et dit « je ne peux plus... » Enfin, il ne le dit pas parce qu'il ne confesse pas ce genre de choses. Mais il revient à un néoclassicisme très étonnant et qui va totalement déconcerter d'ailleurs ses amoureux.
Qui donne, on le voit au musée Picasso de la rue Torini, de véritables chefs-d'œuvre. Ces dames courant sur la plage font partie de cette période, Stéphane Guédan. Émerveillé par la légèreté de ces grosses femmes.
Je me souviens de votre émotion devant ces tableaux.
Stéphane Guégan.
Ces tableaux qu'on dit néoclassiques, faute d'un meilleur mot. Il est évident que le mot induit une erreur de perception massive. Jean-Claire vient de le rappeler à juste titre. Picasso décide de sortir du cubisme, mais au fond, il n'y est jamais rentré. En 1910, au moment où le cubisme devient une institution parisienne, il déclare à la presse et à la presse quotidienne, le cubisme n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'essentialise jamais les esthétiques qu'il a inventées, parcourues. Et d'ailleurs, je note que les étrangers, comme on dit, c'est-à-dire les marchands suisses, les marchands allemands, les critiques, ont tout de suite compris ça, contrairement au milieu parisien. Il n'est l'homme d'aucune chapelle. Alors, vous l'avez rappelé, la fécondité est massive. Mais elle est souvent synonyme de gratuité. On a l'impression que, vous savez, comme les Kleenex, Picasso prend un style et le jette. C'est pas du tout l'homme de l'éphémère. Une fois de plus, Jean-Claire l'a souvent rappelé, je pense à son exposition de Rome, je pense à quelques expositions du musée Picasso d'il y a quelques années, c'est l'homme de la tradition, des traditions, d'un héritage beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Vous savez qu'aujourd'hui, la vulgate moderniste répète que sans les masques africains, sans l'art exotique, il ne serait rien. C'est évident que Picasso, non seulement n'a jamais corroboré cette idée, mais toute sa peinture dénonce ce poncif. Alors, ce que je voudrais simplement rappeler, c'est ce que Picasso a pu dire. Il est souvent avare de déclarations, mais quand il parle, il faudrait tout de même l'écouter. En 1923, à Marius Desayas, qui est un proche de Picabia, qui est un proche de Stiglitz, qui est un proche de l'avant-garde paris-new-yorkais, si je veux dire. Il dit, au fond, moi, je ne réponds qu'à la diversité du réel, hein, pour résumer sa déclaration, et que s'il y a diversité chez moi, diversité du style, c'est précisément parce que le réel est divers et que chaque sujet commande un style différent. Et qu'il a été l'homme, non pas du cubisme, puis du néoclassicisme et du surréalisme, comme on s'évertue à nous le répéter, mais un homme qui mêle, qui court plusieurs lièvres à la fois, dans la mesure où, précisément, il est l'homme des rencontres, et pas simplement l'homme, le minotaure que, là encore, on nous dépeint. Et il cherche à, au fond, représenter son temps représenter son approche du temps et du monde contemporain à travers une diversité stylistique qu'il faut réapprendre à comprendre, vous voyez. Et évidemment, vous avez raison, la période néoclassique gêne. Elle gêne.
À moi.
Elle gêne, oui, elle gêne parce que elle gêne les gens, et notamment elle gêne l'historiographie française parce que elle implique une sortie du dogmatisme et non pas un refus du modernisme. Mais ce qui est amusant, c'est que tout de suite on le dit. Et avant que les surréalistes ne lui fassent les yeux doux, Breton le dit. En 1919, il l'écrit, Picasso se prend au sérieux, comme Gide et Barrès. La comparaison est amusante. Et c'est après, quelques années plus tard, qu'ils vont lui faire les yeux doux et qu'ils vont faire de lui le plus grand peintre du XXe siècle. Et c'est là où leur position est intéressante, puisque Paz est dans cet héritage-là du surréalisme. Il est bien sûr un émule de Breton. Eh bien, les surréalistes ont joué un double jeu à l'égard de Picasso, avant de le sacraliser. C'est-à-dire qu'ils ont bien senti que l'homme leur échappait. Et d'ailleurs, Breton, là-dessus, est plus honnête que tout le monde. Ils ont bien senti qu'il n'avait fait qu'un pas vers eux, qu'il n'avait jamais adhéré à quoi que ce soit, mais qu'il vient d'un monde qui n'est pas le leur. Et celui qui voit clair, il y a deux personnes qui voient clair au début des années 30, c'est Bataille, bien sûr, et c'est Léris.
Et c'est Léris, oui.
Et Léris dit, mais qu'est-ce que c'est que ces surréalistes qui veulent s'accaparer Picasso alors qu'il est foncièrement réaliste.
Réaliste.
Il écrit foncièrement réaliste. Voilà, tout est dit.
Et alors, est-ce que vous répondriez à ma question en disant que avec justement toute cette diversité attachée à la diversité même du réel et des phénomènes qu'il observe, Picasso est le plus grand peintre du XXe siècle.
Oui, même si je n'aime pas beaucoup ce genre de classement.
Oui.
C'est vrai que c'est ma famille. Le monde auquel j'appartiens, c'est celui d'Ingres, c'est celui de Manet, c'est celui du Caravage, et donc plutôt celui de Picasso que celui, des surréalistes ou de Duchamp. Mais là n'est pas au fond la question, parce que c'est évident que je suis le premier à reconnaître l'importance de Duchamp, et surtout l'intérêt de la démonstration qui est faite au Centre Pompidou par ma collègue Cécile Debray. C'est-à-dire que chez Duchamp, contrairement une fois de plus à la vulgate moderniste, la peinture reste essentielle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il abandonne les pinceaux, encore que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il parle de peinture et il parle de Picasso dans ses textes jusqu'à la fin, puisqu'il avait un rôle, vous savez, d'advisor, de courtier presque, aux États-Unis. Donc il est resté très attaché à cette tradition-là et à toutes les traditions. Et d'ailleurs, l'exposition du Centre Pompidou débute par ça. À la toute fin, il livre des copies, des variations sur Courbet, sur Ingres. Et bien sûr, le monde de l'époque ne peut pas comprendre ce retour à, voire ce retournement. Donc, Duchamp est très complexe. Et l'intérêt de l'exposition de Jean Clair, l'exposition inaugurale à laquelle il a été fait mention en 77 au Centre Pompidou, c'est qu'on demande à Jean Clair de faire une exposition moderniste, c'est-à-dire de nous convaincre de convaincre le public qui va découvrir le Centre Pompidou que Duchamp, c'est l'homme de la situation. Et l'exposition de Jean Clair, précisément, déconstruit ça. C'est-à-dire qu'il montre en Duchamp un artiste qui vient de la Renaissance italienne, un artiste qui s'intéresse à tout, et non pas, bien sûr, le liquidateur.
Oui, mais quand même, Jean-Clair, pourquoi Duchamp, c'est comme l'autre grand peintre? Parce que tout de même, il y en a peut-être qui sont injustement éclipsés par le génie protéiforme écrasant de Picasso. Matisse, Bonnard, Klee. Vuillard, voilà des peintres auxquels on peut être attaché et qui peuvent éventuellement émouvoir davantage que Picasso, Jean-Clair.
Ah oui, mais... Non, tout à l'heure, on parlait du rapport à la réalité et donc de ce qui est pour moi un paradoxe insoutenable, Picasso, peintre réaliste. C'est aussi tous les deux, Picasso et Duchamp, se posent le même problème. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui, en 1890, 1900, 1910, de peindre ce qu'on appelle la réalité? Et qu'est-ce qu'on appelle la réalité? Picasso s'en sort, si je puis dire, s'en tire, avec une maestria effectivement extraordinaire, stupéfiante, éblouissante, 40 000 œuvres, qui consiste à... Non pas à se poser le problème de savoir ce que c'est que la réalité, mais à parcourir la totalité du musée tel que l'homme moderne se l'est imaginé. c'est-à-dire le musée non seulement de la peinture occidentale, mais encore le musée de toutes les formes, de toutes les cultures. Donc Picasso va à cette espèce de, ce que Caillois l'appellera le grand liquidateur, qui à toute vitesse, avec une vitesse absolument vertigineuse, va réussir à reparcourir tous les systèmes formels qui ont créé ce qu'on appelle l'histoire de l'art en Occident, mais aussi en Afrique, je ne sais pas où, c'est ou bien autant la statuaire nègre que la statuaire celtique, par exemple, celle ibérique, hein, tout y passe. Bon, et comme une espèce d'ogre, il va avaler tout ça, il va le manger, le manduquer et le recracher comme les bons ogres recrachent. Il restera ce qui restera. Bon, et de tout cela, finalement, naît l'image, à mon sens, d'un désastre général, c'est séculaire, il ne reste rien. Et le problème de la réalité n'a jamais, pas une seule fois, été posé. Ce qui a été posé, c'est le problème du rapport de l'art à la réalité, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire, quel est le système de forme qui, pendant des siècles et des siècles, en Occident, mais aussi en Afrique, par exemple, ou chez les Mayas, a permis de dire qu'on représente quelque chose qui a rapport à la réalité, ça s'appelle de l'art. Bon, la démarche de Duchamp est tout à fait différente. Il est de dire, aujourd'hui, la peinture n'a plus l'art, n'a plus les moyens de représenter la réalité, parce que les moyens de l'art, les techniques de l'art sont totalement inadaptées à la représentation sur une toile plate de la réalité. La perspective, c'est fini, le point de vue unique, c'est fini, et d'autre part, ce que nous appelons la réalité, c'est peut-être bien plus compliqué que ce que l'on croit. Donc effectivement, il va y avoir des espèces de fausses approches d'une réalité nouvelle, dont ils ont le pressentiment, la prescience assez confuse, d'une réalité cachée derrière la réalité visuelle que j'ai sous les yeux, là, vers un... Bon, le cubisme va être cette espèce de tentative... désolante, parce que sous le nom de cubisme, on cache des formes tellement différentes et tellement contradictoires. Quel rapport est-il entre le cubisme de Glaize et Metzinger et le cubisme de Braque? Aucun. Et encore moins avec les formes italiennes du futurisme, qui sont encore... mais c'est une approche très naïve, au fond, d'un réel qui essaie d'inclure les nouvelles données de la science ou de la technique. Duchamp va se poser le problème jusqu'au bout. Bon, la réalité, elle est invisible, on ne peut pas la représenter, parce qu'aujourd'hui, les témoignages que l'on a de la réalité à travers les approches scientifiques ou autres sont tels que l'art, avec ses pauvres moyens, ne peut plus en rendre compte. Et par conséquent,
vous êtes d'accord avec cette...
Complètement, bien sûr.
Mais pourquoi? Parce qu'après tout, la technique est une manière de dévoiler le monde, pour parler comme Heidegger,
oui,
à laquelle l'art peut
à participer jusque vers les années...
La Terre est plate, si vous voulez. La Terre est ronde, mais non, elle est plate. Heureusement qu'il y a des artistes pour le signifier,
pour le rappeler.
Pour nous permettre de continuer à l'habiter.
Non, elle n'est pas plate, elle est ronde. Et aussi, le rapport au visage, puisqu'on en parlait, n'est plus aujourd'hui le même qu'il était... qu'il l'a été pendant des siècles. Donc, peindre un visage aujourd'hui suppose de se poser un certain nombre de problèmes que Picasso ne s'est jamais posé, alors que Duchamp, lui, se les est posés. Il a arrêté, honnêtement, sérieusement. Ça n'est plus possible. On va faire autre chose. Dans d'autres domaines, ça ne sera plus la peinture.
Alors, moi, j'apporterai un bémol.
Stéphane Guégan.
J'espère.
Jean-Claire.
Qui est très radical.
Oui. À mon avis, il est assez stérile de continuer à opposer... Picasso et Duchamp, qui d'ailleurs se sont croisés. Hein, oui. Ils ont pendant un moment appartenu au même monde. Et notamment la famille cubiste. La famille cubiste les a rapprochés. Je pense, Picasso n'est pas l'homme, je l'ai dit, des déclarations fracassantes, contrairement à ce que l'on croit, mais que tous les deux vivent dans un monde post-euclidien. On a beaucoup, vous savez, il y a un temps où on écrivait beaucoup sur le cubisme. Ce temps est d'ailleurs très loin. Et on s'est beaucoup interrogé sur la nature de vérité que contenait le cubisme. Est-ce que le cubisme, justement, intègre ces nouvelles approches scientifiques du monde? Est-ce qu'on est toujours dans un monde post-euclidien ou post-euclidien? Je pense que Picasso avait conscience de ça. Et la manière dont il parle du cubisme, de son cubisme, le confirme. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit plus... de dire que l'image est une représentation frontale du monde, qui serait le référent de l'image, mais au contraire, une manière d'exploration. Hein. Il s'agit de résumer sur une toile de deux dimensions un monde qui ne l'est pas. Hein, un monde qui a trois, voire quatre dimensions. Et il l'a souvent dit dans les années 50, quand on l'a interrogé sur le cubisme, et le sien et celui de Braque, il disait « Nous n'avons jamais été aussi soucieux de l'exactitude. Nous n'avons jamais été aussi soucieux de coller à la réalité. » Et, d'une certaine manière, ces sujets, les natures mortes, des paysages, des portraits ressemblants à l'époque du cubisme, montrent qu'il n'y a jamais déni du réel.
Jamais, jamais, non.
Je crois que c'est une paresse du regard qui est coutumière dans l'histoire de l'art formaliste que de dire que ces tableaux-là se vident de toute substance iconique. Il y a là un sujet, il y a là une image. Et pourquoi a-t-il fait des portraits? Pas simplement parce qu'il voulait, par exemple, représenter ses marchands, Vollard, Kahnweiler ou Hood en 1910, comme on a pu le dire aussi. Non, c'est parce que là aussi, il met à l'épreuve le cubisme. Il met à l'épreuve le cubisme, c'est-à-dire que si le cubisme n'est pas capable d'intégrer le portrait, la nature morte, et voire le nu, eh bien il faut en changer, il faut changer d'esthétique. Et très vite, le cubisme, au fond, c'est une affaire qui va durer deux ans.
Deux ans.
Et on continue à le résumer à ça.
Oui, mais justement, Jean-Claire, dans un de vos livres, La responsabilité de l'artiste, vous faites crédit à Picasso d'être resté obstinément attaché à dire le réel et donc de refuser le saut dans l'abstraction. Et vous citez à côté de lui Bonnard, Balthus, Spencer, Freud, Hopper, Giacometti, Musich, Arica. Et donc, cette réalité, Picasso ne voulait pas la lâcher. Et à ce moment-là, au fond, vous dites que c'est tout à son honneur. Et dans un texte, alors là, qui a été republié par le numéro spécial du Figaro sur Picasso à l'occasion de la réouverture du musée, un texte que vous avez publié, je crois, en 1967, après une exposition Picasso. Vous êtes absolument terrible. Vous dites qu'il a inoculé à l'art actuel son goût immodéré du néant. Alors, il faudrait savoir, goût immodéré du néant ou attachement coûte que coûte à la réalité, en dépit justement de l'idée selon laquelle la science nous condamnerait à ne plus voir le réel.
Oui, mais, alors. Je crois que je serais aujourd'hui plus proche de celui que je fus en 67 que de celui que j'étais au moment de la responsabilité de l'artiste, en réfléchissant peut-être un petit peu plus loin, c'est-à-dire que ça veut dire quoi, être fidèle au réel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois cette table-là de radio, je vais la représenter? Bon, oui, enfin, c'est un peu simple, c'est un peu naïf. Et je comprends qu'on puisse se poser le problème. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est vrai qu'il court tous les lièvres à la fois. Mais à force de courir tous les lièvres à la fois, il n'en attrape aucun et on n'a jamais le plaisir de savourer un lièvre. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté-là qui est fondamental, c'est qu'on peut pratiquer le dévergondage stylistique le plus éblouissant qui soit. On sera ébloui comme si on était au cirque Medrano, devant le salto mortale de du clown sur son fil de fer. Il n'empêche qu'une fois le tour terminé, on retournera chez soi un peu déçu, un peu dépité. C'est l'assentiment que j'ai de l'œuvre de Picasso. C'est-à-dire que c'est absolument éblouissant. On a sans arrêt envie d'applaudir. On se dit, mon Dieu, il va se casser. Non, jamais il ne se casse pas. Mais il y a finalement la substance, la chair, le rapport charnel à la réalité n'y est jamais.
Alors,
c'est ça le problème.
Alors,
on est fondamentalement...
Alors, je vais citer deux extraits de votre livre, Stéphane Guégan, en réponse ou en écho à ce que vient de dire Jean-Claire. Deux citations absolument magnifiques. Et moi, j'aimerais des expositions où les toiles puissent être accompagnées de quelques mots de poètes ou d'autres artistes. En l'occurrence, il s'agit de Rilke, d'abord, devant le tableau « La famille de saltimbanques » de 1905. Tableau très figuratif de Picasso, très accessible. « Mais qui sont-ils, dis-moi, les errants, ceux qui sont un peu plus fugitifs que nous-mêmes encore, oppressés, tordus par un vouloir, pour qui, l'amour de qui, toujours insatisfait. » Voilà, une image. Et effectivement, le tableau est lisible à la lumière de ces quelques vers. Et alors, plus extraordinaire encore, là, il me semble qu'on est en pleine réalité et pourtant transfigurée, les mots que Léris écrit à propos de Guernica. L'un des tableaux les plus célèbres de Picasso, 1937. Et voici le texte de Michel Léris. le monde changé en chambre d'hôtel meublée, où tous gesticulant nous attendons de crever, le soleil réduit aux proportions d'une ampoule électrique, luisant à deux doigts de nos têtes en une sordide intimité, les affres du cheval tordu comme un pégase, pris soudain dans un affreux coupe-gorge, le taureau seul vainqueur, dardant éternellement ses cornes, les personnages convulsés, la table dure, l'oiseau s'égosillant, inutile de chercher des mots pour tenter de décrire cet après-jet de notre catastrophe noire et blanche. Et un peu plus loin, Picasso nous envoie notre lettre de deuil. Tout ce que nous aimons va mourir, et c'est pourquoi il était à ce point nécessaire que tout ce que nous aimons se résumât, comme l'effusion des grands adieux, en quelque chose d'inoubliablement beau.
Ouais. Là, vraiment, ce qui est frappant avec ces citations, c'est le magnétisme qu'exerce Picasso sur les grands poètes de son temps. Il faut tout de même rappeler que dès qu'il arrive en France, quelques mois après son premier séjour, il rencontre Max Jacob, qui va être, la grande amitié des années du cubisme. Et puis, il inscrit, on le sait, sur la porte de son atelier du Bateau Lavoir, au rendez-vous des poètes. Alors, si j'y insiste, c'est parce qu'on a tendance également à réduire la peinture de Picasso à sa picturalité. Alors que lui, à la fois par... j'ai envie de dire la diversité de son œuvre, mais aussi ses relations avec les intellectuels de son temps et avec les écrivains, a dit le contraire. Ma peinture, c'est du sens. La peinture est un objet de pensée et elle relève plus de la poésie, d'ailleurs, que de toute autre chose. Donc il maintient cette vieille idée occidentale de la peinture comme poésie. Même si, bien sûr, il en renouvelle les modes. Et ça me frappe. Parce que quand on regarde bien les choses, il a, comme Manet, fréquenter les plus grands. Hein, on oublie, parce qu'aujourd'hui, on préfère Aragon et Éluard, on oublie que les grands poètes de sa vie, c'est effectivement Max Jacob, Apollinaire, Salmon, poète sous-évalué aujourd'hui, Cocteau, grand poète sous-évalué aujourd'hui, Desnos, bien sûr, vous avez raison, et jusqu'au bout, même si, semble-t-il, sous l'occupation allemande, il a mis en veilleuse certaines amitiés. Parce que compromettantes, effectivement. Et parce que l'homme est prudent. Mais il n'empêche, c'est l'homme de la poésie et de la poésie moderne. Et Jacob l'a raconté. Il a appris le français dans Baudelaire et dans Alfred de Vigny. Imaginez un moderne, comme on dit aujourd'hui, dans le Paris de la Belle Époque, 1901-1902, apprenant avec Jacob, la grande poésie romantique. Et d'ailleurs, j'y reviens également dans le livre, Picasso poète.
C'est-à-dire Picasso rattrapé par la queue.
Oui, et puis tous ces textes qu'on sent hanté par Gongora, par Cervantes et par la poésie française.
Mmh. Mais alors, oui, Jean-Claire, les poètes sont très présents dans la vie de Picasso, mais dans votre livre, Une leçon d'abîme, vous dites que les demoiselles d'Avignon, dont vous parlez assez longuement, ont stupéfié et même consterné les amis de Picasso. Pas Breton, bien sûr.
Ah, oui.
Mais, par exemple, vous dites, Apollinaire n'y comprend rien et fait silence. André Salmon cache son désarroi profond en déguisant la gravité scabreuse de son sujet sous le sobriquet des demoiselles d'Avignon. Gertrude Stein parle d'un véritable cataclysme. Donc là, qu'est-ce que s'est-il passé avec les demoiselles d'Avignon, Jean-Claire ?
Je crois qu'effectivement, il y a une rupture absolument énorme, stylistiquement, formellement. Et c'était très difficile d'accepter la présence de ces dames qui sont toutes sauf désirables dans leur forme. Mais je voudrais revenir un instant, si vous voulez, sur Guernica, parce que c'est un tableau, effectivement, me semble-t-il, extrêmement intéressant. Ce qui frappe aussi bien Rilke dans ses élégies de Duino que plus tard Apollinaire dans les œuvres de Picasso, c'est que Picasso peut être le seul peintre, que j'ai l'impression de dire du mal de lui, mais c'est évident que c'est une figure gigantesque qui s'impose, qui est devant nous. Mais il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui frappe Rilke comme Apollinaire ou Michel Léris dans Guernica, c'est le fait que Picasso soit un des très rares peintres à oser faire de la peinture, je dirais, d'histoire et même d'histoire religieuse, c'est-à-dire à scoltiner le problème sur une grande toile, de raconter des histoires qui ont rapport à l'histoire, avec un grand H. Et en même temps, est-ce que bon, alors ça provoque un très grand choc. Et puis donc c'est introduire le problème de l'iconographie. L'iconographie, qui est Picasso peut-être le seul peintre, un des très rares peintres au XXe siècle, a osé s'affronter au problème d'une iconographie, c'est-à-dire d'un tableau qui représente une histoire, une historia, quelque chose. Alors que d'autres, non, rien du tout. Mais en même temps, cet effort gigantesque de réintroduire une iconographie dans la peinture contemporaine se paye du fait que, on touche à des choses extrêmement compliquées, difficiles. Est-ce qu'il s'agit d'un retour? Est-ce qu'il s'agit d'une reprise? Est-ce qu'il s'agit d'une manducation, d'une démantibulation de ce qui existe déjà? C'est quoi? Manet, par exemple, Manet, que mon voisin connaît tellement bien, est effectivement quelqu'un qui reprend la tradition, qui la reprend, qui est un maître, qui reprend les maîtres et qui est capable, effectivement, de lire Courbet comme... Très peu de peintres ont réussi à lire Courbet. Et les chefs-d'œuvre de Manet sont aussi beaux que les chefs-d'œuvre de Courbet. Je ne trouve pas de chefs-d'œuvre de Picasso qui soit aussi beau que les chefs-d'œuvre dont il prétend s'inspirer. C'est là le problème. C'est-à-dire que l'iconographie revient, contrairement à Manet qui est incapable de faire un tableau d'histoire, tout comme Picasso serait incapable inversement de faire des paysages. Il n'y a pratiquement pas de paysage chez Picasso, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'arrive pas à faire un paysage. Donc il a besoin d'une histoire, une histoire sur laquelle s'appuyer. Que cette histoire soit une histoire politique ou que cette histoire soit une histoire religieuse. Léris donne son interprétation de Guernica, qui est intéressante. Un hôtel meublé, moi je veux bien.
Le soleil et l'ampoule électrique.
Mais s'il regardait un petit peu mieux tout de même, il y a une cohérence, et là c'est c'est tout à la gloire de Picasso. Il y a une cohérence de ce tableau sur lequel il va travailler pendant des mois et des mois, tel que c'est autre chose dont il est question. En particulier, si on regarde dans le motif qui est à gauche en bas, de la mère qui tient dans ses bras un enfant mort. C'est vraisemblablement, connaissant une Pietà, c'est-à-dire une mère qui porte dans ses bras un enfant qui vient de naître, dont le bras droit pend canoniquement, conformément à l'iconographie, dans le vide. C'est donc l'iconographie de la Pietà. Sauf que c'est une Pietà réinterprétée par Picasso dans le sens de c'est un enfant qui arrive et à peine, il n'est même pas né qu'il est déjà mort. Donc c'est une vision terriblement sombre, dramatique. Et à partir de cela, à partir de cet élément, et cette Pietà dans le petit coin gauche, c'est ce sur quoi, dans le tableau, il va travailler pendant des mois, de Ramar va documenter d'ailleurs ce travail progressif de Picasso sur ce petit fragment du tableau, qui fait qu'on est obligé presque de réinterpréter l'ensemble de Guernica, non pas comme une peinture d'histoire, mais pas seulement comme une peinture d'histoire, mais comme une espèce de nativité sous les bombes, où presque tous les éléments...
Crucifixion.
Une nativité.
Oui.
Et en même temps, la mort de l'enfant, qui est mort avant même de naître.
Oui. Vous avez raison d'insister sur la dimension religieuse et quasi sacré de sa peinture. Rappelons-nous ce que dit Aragon, qui est le grand promoteur de la peinture d'histoire, oui. En tout cas après après avoir rejoint Moscou et le PC. C'est-à-dire qu'il faut que le XXe siècle produise sa peinture d'histoire. Et il dit de Picasso, plus tard, il a été le Delacroix du XXe siècle. Alors on sait qu'il n'a pas aimé, les communistes n'ont pas aimé Guernica, ils n'ont pas aimé non plus Massacre en Corée en 1951, mais ils ont senti chez Picasso tout de même un effort conséquent.
Et vous aimez, vous, Massacre en Corée?
Moins que Guernica, bien sûr,
moins que Guernica.
Mais ce qui me frappe, à la fois dans Guernica, dans le Charnier, tableau essentiel de l'année 45, et également dans Massacre en Corée, c'est la façon dont il utilise l'imagerie des camps. Il a découvert ça, comme tous les Français, à la fin 44. Les photos des camps libérés. Et pour lui, la guerre, elle l'est déjà pour Guernica, la guerre se regarde du côté des victimes. La nouveauté de la guerre moderne, on le sait, c'est pas simplement la guerre de 14, ça a commencé bien plus tôt, ça a sans doute commencé d'ailleurs lors du conflit entre la France et l'Allemagne en 1870, c'est les populations civiles. Comme on le dit, à partir de Guernica, l'enfer vient du ciel, comme je le résume, c'est-à-dire qu'elle vient là, elle surprend, elle tue. À l'aveugle. Il a senti ça. Guernica, c'est ce tableau-là qui dit ça. Et Léris le dit bien, c'est une tragédie, un rectangle noir et blanc. Charnier, bien sûr, des corps, dans une cuisine. Et puis Massacre en Corée, qui est un tableau totalement irréaliste. Tellement irréaliste, mais qui montre des femmes nues, de type occidental, avec des enfants. Voilà, voilà ce qu'est la guerre moderne pour Picasso. Et ça, il est un des rares à le peindre d'une façon aussi décisive.
Alors, je ne voudrais pas trahir complètement le titre que j'ai donné à cette émission. Je voudrais donc que nous disions quelques mots sur le visage. Dans le musée Picasso, le parti pris d'Anne Baldassari, c'était de mêler les époques. Et dans une première salle, dans la première salle, il y a une émotion extrêmement forte qui naît du rapprochement entre deux œuvres aussi éloignées dans le temps qu'il est possible, l'autoportrait de Picasso, période bleue, je crois,
bien sûr,
sublime autoportrait, et puis une de ses toutes dernières toiles, le jeune peintre. Il se regarde dans le miroir, c'est ce que vous avez dit, Stéphane Guégan, et il voit le jeune homme qu'il a été. Ce sont deux portraits absolument magnifiques. Mais entre-temps, Picasso a beaucoup, beaucoup déformé les corps et les visages. Et il y a un autre tableau qui pour moi est très difficile à regarder, que vous commentez dans votre livre, Stéphane Guégan, c'est le grand nu au fauteuil rouge. Donc voilà, alors que faire de tout cela? Est-ce que Picasso était un amoureux des visages? Et pourquoi, s'il l'était, a-t-il justement, à un moment donné de son œuvre, dans plusieurs moments de son œuvre, pratiqué cette espèce de déformation systématique, cette profanation?
Oui, alors est-ce qu'il l'aurait dit comme ça? Je n'en suis
peut-être pas
sûr.
Pas, sans doute
je pense qu'il aurait parlé plutôt comme ses amis photographes. N'oublions pas qu'il est l'ami des photographes aussi, et donc qu'il intègre cela aussi. Qu'est-ce que la photographie a provoqué dans l'ordre de la mimésis au XXe siècle, hein? C'est une des réflexions de Picasso. Vous savez que les photographes, depuis le XIXe siècle, parlent de ressemblance intime pour caractériser leur photographie. Justement parce qu'on reproche à la photographie d'être plate, d'être trop littérale, d'être superficielle. Donc les photographes ont inventé ce concept de ressemblance intime. Je pense qu'il y a ça chez Picasso. Et le grand nu dont vous parliez, qui effectivement nous montre un corps désarticulé, torturé comme il l'a souvent fait, et à des périodes d'ailleurs qui sont des périodes de grande tension intime ou historique. Hein, c'est par exemple pendant la Drôle de Guerre qu'il a torturé le visage de Dora Maar. À mon avis, tout ça a du sens. Pour revenir au tableau au grand nu dans un fauteuil rouge, c'est sans doute un tableau où il faut voir l'ombre d'Olga. Hein, la femme dont il se sépare et qui va lui mener la vie dure jusque dans les années 50, alors qu'il est déjà l'amoureux pétrarquisant et tendre de Marie-Thérèse. Et donc, quand il violente le corps de la femme, ce n'est pas, comme on pourrait le juger aujourd'hui, par sexisme, mais d'une certaine manière, pour dire autre chose. Pour dire, je reviens à ce que je disais. C'est le réel qui commande le style. Il ne s'agit pas de torturer la femme pour le plaisir de torturer la femme. Et l'image du minotaure agressif de l'ogre, à mon avis, est fausse. Tout simplement fausse. Tout simplement
fausse. On reviendra sur la question de la sexualité. Jean-Claire, violente-t-il les visages? Parce que c'est important pour vous, cette question du visage dans la peinture, dans la peinture moderne. Mais
évidemment, c'est fondamental.
Au XXe siècle.
Pour dire les choses très brutalement, je pense qu'il y a aucun... Picasso n'a jamais été un portraitiste, il n'a jamais sorti un portrait qui provoque la moindre émotion. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas parce que qui provoque la moindre émotion, qui soit chargé de la moindre psychologie. Ce sont des jeux formels, plus ou moins gratuits, plus ou moins. Oui, je sais ce que.
Même la Célestine, alors, vous diriez de cela? Je feuillette le catalogue désespérément.
Mais là, évidemment, vous survolez 90 ans de production.
Ah, donc, évidemment, entre j'ai vu tout à l'heure un portrait magnifique de.
Ce tableau m'est d'autant plus cher que c'est moi qui l'ai fait entrer au musée Picasso.
D'ailleurs. Ah bon?
À l'époque, je me souviens très bien. Ça a été un grand moment, effectivement.
Un portrait magnifique de Stravinsky, disait.
Un des plus grands portraits du XXe siècle. Tous les portraits de
Célestine.
Stravinsky.
Stravinsky,
les frères Rosenberg, c'est formidable.
Alors,
vous m'embarrassez beaucoup.
C'est une galerie de portraits.
Non, alors, il faut peut-être faire une distinction d'abord entre les portraits ou les dessins.
Les visages.
Les visages et les dessins des visages, parmi lesquels, effectivement, des chefs-d'œuvre extraordinaires qui font penser à Ingres ou à des grands dessinateurs de portraits du 18e ou du milieu du 19e, et puis les peintures qui sont tout à fait autre chose. Et je trouve étonnant que lorsqu'on prend la responsabilité de peindre un visage, on en donne une version qui est une variation formaliste sur les traits d'un visage. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Mais il y a là quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas convaincant, qui est vide de sens, qui est vide d'émotion, qui est vide de passion.
Non, mais j'entends bien, parce que je vois très bien ce que la déformation physique peut suggérer.
C'est pas une question.
Mais je crois qu'il a dit ça à peine rose. Il y a toujours du caricaturisme chez les grands portraitistes. Hein. Vous savez que quand on regarde même les portraits cubistes, on retrouve son modèle. Alors que, je suis désolé de le dire, mais Picabia, Matisse et Duchamp sont de piètres portraitistes au regard de ce que Picasso aura produit dans le genre. Et il en a laissé des portraits et très nombreux. Et vous avez raison de dire que au musée Picasso, la confrontation entre l'autoportrait bleu et le portrait où il se retourne sur son enfance, de peintre comme ça, il était peintre à 11 ans, comme il l'a rappelé, c'est formidable.
Mais c'est même extra. C'est une grande émotion. Ça provoque une grande émotion. Mais alors, je vais vous citer un auteur, et je me demande s'il ne va pas un peu dans votre sens, Jean-Claire. C'est Jacques de Witte qui en parle. Il rend hommage dans un numéro de Causeur à Simon Laisse.
Oui.
Et Simon Laisse lui a envoyé à Jacques de Witte une carte postale, très peu de temps avant sa mort, représentant un tableau d'Édouard Vuillard et un tableau que Causeur reproduit, qui est effectivement absolument magnifique, le sommeil. Et Simon Laisse dit « Cette peinture exquise a été exposée à Canberra en 2009 avec quelques autres tableaux du musée d'Orsay. » Vous saviez que Simon Laisse habitait l'Australie. « Vuillard est pour moi, comme le Vermeer du XXe siècle, je donnerais tout Matisse et tout Picasso pour un seul petit Vuillard. » Alors, est-ce que vous adhéreriez?
On est dans l'affectif, là.
Je ne serais pas loin d'adhérer, oui, effectivement. Moi, je comprends très bien ce que Jacques de Witte veut venir. Et oui.
Mais ça, c'est Simon Laisse qui parle.
C'est Simon Laisse qui parle
et Jacques de Witte. Ouais. Jacques de Witte est évidemment très sensible à cette remarque. Vous ne serez pas loin de penser ça.
Je ne serais pas loin de penser ça, mais c'est extraordinaire. Je vois bien sur quel terrain terriblement miné là, on est en train de s'engager. C'est-à-dire que s'intéresser au visage d'autrui, ce n'est pas à vous, Alain, qui est un lecteur de Lévinas. S'intéresser au visage d'autrui, c'est témoigner vis-à-vis d'autrui d'une certaine bienveillance. Chez Picasso, je n'ai jamais vu cette bienveillance. J'ai toujours vu, au contraire, un projet totalement, je ne dirais pas destructeur, c'est pas ça, mais un projet un peu démoniaque au sens démoniaque, je ne sais pas comment dire ça. Il faut que ça soit manduqué, démantibulé, désarticulé. Le visage n'est qu'un prétexte pour. Et non pas une rédemption. C'est pour ça que là, le rapport, pour y revenir un instant, de Picasso au camp de concentration, et là aussi, c'est dans la même ligne. Picasso donne des camps de concentration une image ridicule. Oui, j'y vais à fond. Mais oui, mais bien sûr.
Vous allez à fond, c'est bien. Au moins, les choses sont claires.
Oui, les choses sont
clairement
dites. Je ne vois pas en quoi le charnier peut m'enseigner en quoi que ce soit sur l'horreur des camps de concentration.
Mais personne ne peint ça à la même époque. Personne. Et encore moins Matisse, Vuillard.
Bah, il y a quand même eu un certain nombre.
Vuillard est mort depuis longtemps.
Encore moins Matisse, qui continue à peindre des fleurs, je veux dire.
Oui, d'accord, mais il y a quand même eu un certain nombre.
Juste une seconde, je comprends très bien le point de vue. Rappelons-nous ce que Breton dit en 1939, avant la guerre, mais on est en guerre déjà. Hein. Et il dit, voilà, au fond, il n'y a que Masson, je ne parle pas de Picasso, parce qu'ils étaient un peu encore en froid, mais il n'y a que Masson qui peint son temps. Matisse, Bonnard peigne pour les appartements, comme va le dire Picasso plus tard.
Ouais.
Je crois qu'il faut essayer de recréditer l'œuvre de Picasso et Picasso lui-même d'une attention aux êtres qu'il a fait entrer dans sa peinture. Prenez l'exemple des portraits de Nucheloire, avec laquelle il a peut-être eu une aventure l'été 37. Hein. Il y a des portraits d'elle en mangeuse d'hommes, et puis au contraire des choses d'une immense tendresse. Donc il est capable aussi de traduire la diversité de son rapport aux femmes. On a dit deux mots de sa réputation d'ogre et de minotaure. Elle voit la complexité de ses relations, et voire même de ses expériences sexuelles.
Moi, je ne vois aucun portrait de Picasso qui m'apporte la moindre chose sur la nature psychologique ou sentimentale de la personne représentée, sauf Gertrude Stein. C'est très intéressant. Comment se fait-il que ce portrait de Gertrude Stein, tellement ambigu, au statut tellement ambivalent, Picasso s'acharne sur lui, mais dans un bon sens cette fois-ci. Donc il va pendant des semaines la peindre. Et effectivement, quand on voit aujourd'hui le portrait de Gertrude Stein, on reste stupéfait et on reste marqué. Alors que par contre, les séries de femmes qui pleurent ou autres me laissent pour ma part l'œil totalement sec et je n'y vois qu'un exercice stylistique assez futile, pour ne pas dire parfois assez désagréable, dans la mesure où ça témoigne d'une indifférence à l'être humain, à un manque de bienveillance qui n'est pas compatible avec la profession de peintre.
Bon, bah écoutez, cela a été dit. Bon, moi, je regardais en vous écoutant le portrait d'homme de l'hiver 1902-1903 qui se trouve au musée Picasso. Bien, tout le monde pourra se faire une idée. Mais venons-en une seconde à la question de la sexualité chez Picasso, l'érotisme de Picasso. Je regarde aussi une autre esquisse, un dessin, Les Amants d'août 1904, nus sur jambes croisées. Ça, ce sont des choses très, très jolies, si l'on peut dire. Mais Picasso n'est pas seulement joli. Érotisme débridé du dernier Picasso. Et surtout, comme y insiste Bérénice Levet dans un article qu'elle a donné également à Causeur, Picasso, si vous voulez, célèbre la différence des sexes. Et même le goût qu'a l'homme de posséder la femme, c'est le Minotaure, etc. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir, un jour ou l'autre, le politiquement correct, les théories du genre, en quelque sorte, régler son compte à Picasso?
Stéphane Guégan. À vrai dire, le compte a déjà été réglé très tôt. Mais davantage encore à l'extrême fin de la carrière de Picasso, quand il expose par deux fois en Avignon, au Palais des Papes, une première fois de son vivant, une première fois peu de temps après sa mort. Hein, c'est au fond sa lettre d'outre-tombe. Et c'est ces grands nus qui vont faire hurler les gardiens du temple, à commencer par les collectionneurs du cubisme, et qui disent que c'est une peinture sénile, pornographe, qu'on n'aurait jamais dû montrer tout ça, et que Picasso, au fond, baisse le masque, hein, et qu'il n'a été qu'un agresseur de l'anatomie humaine, que le Minotaure toujours, il n'a jamais su que dégrader l'image de la femme. Et Bérénice Levet a raison d'y insister, elle y insiste aussi dans son essai sur le genre et les pro-genres, les gender studies, c'est-à-dire l'histoire de l'art, ou plutôt la théorie du genre appliquée à l'histoire, a une nouvelle fois, c'est-à-dire récemment, redit ces choses-là. C'est-à-dire que, effectivement, désormais, une partie de l'œuvre de Picasso n'est plus au purgatoire, mais il est à l'enfer. C'est l'enfer qu'on a réservé à ces images de la femme qu'on dit dégradantes.
Alors moi, je veux bien aller en enfer et même rester en enfer avec Picasso.
Ah, quand même.
Ah, mais oui, mais non, mais c'est pas Picasso.
Parlez de votre exposition. Rappelez-vous les réactions que votre exposition a suscité.
Picasso érotique. Picasso érotique.
Ça a été un grand moment, ça. Ouais. Grand moment de révélation.
C'est pas Picasso est-il bon, est-il méchant? C'est pas ça que j'essaie de faire passer.
Bien sûr.
C'est l'idée de.
Nous avons compris.
C'est vraiment là. Alors, je voudrais me référer de ce point de vue-là à cette vieille sentence latine romaine qui est. Je m'excuse, je la cite en latin pour les oreilles prudes, aut vultus, aut vulva. Ou bien le visage, ou bien la vulve. Bon, on ne peut pas faire les deux à la fois. C'est ou bien l'un ou bien l'autre. Picasso, qui a toujours raté ses visages, continue, par contre, a fait des tableaux érotiques extraordinairement puissants, profonds. Si j'ose dire.
Vous n'avez pas dit pénétrant.
J'ai pas dit pénétrant. Et il les fait, comment dire. Mais exactement, si vous voulez, le Courbet, l'origine du monde. C'est pas par hasard que ce sexe est tellement beau, tellement puissant, tellement généreux, tellement fourni, tellement adorable encore aujourd'hui, tellement choquant encore aujourd'hui, mais en même temps attirant, au sens d'attirant. elle est sans tête, c'est la femme sans tête. Bon, Picasso va devenir, à mon avis, le très grand peintre, enfin, que l'on peut admirer, enfin, qui touche à la réalité de l'être qu'il n'a pas réussi à toucher par le visage, lorsqu'il commence à oublier le visage et à se concentrer, avec une espèce d'obsession du vieil homme qu'il est devenu, sur la partie la plus secrète de la femme. Et en même temps, à un moment où, sentant la mort approcher, il est saisi d'une frénésie parce que le temps passe et qu'il va, au contraire, bizarrement, se mettre à travailler très lentement dans une série de gravures très patientes, très longues, qui va être la série des, je me souviens plus du titre, qui sont des gravures admirables sur les variations
sur Degas, et autres, Raphaël, bordel, Fornarina.
Et bon, dans des positions extraordinairement explicites et avec le sexe féminin toujours en plein centre, en plein milieu, ne laissant rien à désirer.
On a parlé d'images scabreuses. On a parlé d'images scabreuses.
C'est admirable.
Alors que c'est le plus bel hommage qu'il ait rendu à Degas, à Courbet et à Manet. Au-delà de la peinture d'histoire, il y a aussi effectivement le grand peintre du nu. C'est-à-dire qu'il y a une autre vérité du siècle pour Picasso, qui est une vérité, je dirais, presque morale. Hein, il n'y a pas simplement une vérité politique, il y a aussi ce nu qu'il faut maintenir coûte que coûte. Il a bien compris que le modernisme se construit aussi, je dirais, ou plutôt rejoint le puritanisme. C'est-à-dire que le genre d'aujourd'hui, ce n'est que l'héritage de tout ça, avec, bien sûr, le combat communautariste qui s'est greffé et qui fait que désormais Manet voire Picasso hétérosexuel, au fond, c'est une façon de montrer les limites de la peinture. Il aurait dû peindre des androgynes.
Et c'est ce que certains disent aujourd'hui.
Oui, d'une certaine manière, on sent bien qu'il y a ça. Il est resté un peintre de la tradition. Hein, il y a trop de femmes et d'hommes. La peinture de Picasso est enfermée dans le vieux conflit des sexes, qui fait bien sûr la beauté de notre culture.
Bon, à la beauté de notre culture, on terminera sur cette phrase et puis sur ce grand moment de réconciliation autour du Picasso érotique. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, Stéphane Guégan, que vous avez publié à Beaux-Arts Éditions Picasso, ma vie en 20 tableaux ou presque. Jean Clair, une leçon d'abîme, 9 approches de Picasso. C'est un livre un peu plus ancien, publié chez Gallimard. Et puis, il y a aussi ce catalogue du Musée Picasso à Paris que je compulsais frénétiquement en vous écoutant parler du visage et des portraits de Picasso, Jean Clair. Mmh. Et ce très beau catalogue est publié chez Flammarion. Vous trouverez de toute façon les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La prière d'Esther ». Mes invités seront Elisabeth de Fontenay et Éric Marty. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. Dans un instant, concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet, le déclin français, durable obsession.